happy. Good morning. Really happy.
Good morning.
Be with you. Be with you. Be with you.
Happy.
Really happy. Be with you. Good morning, good morning. Bienvenue à toutes et à tous au NFT Morning. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars et c'est une belle journée ensoleillée sur Paris. La météo est bonne, la météo des cryptos n'est pas mauvaise aussi car le Bitcoin est à 70 000 dollars, l'Ethereum à 3500, le Sol à 188. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler corpo, car c'est notre room mensuel hebdomadaire sur les corpos. Déjà, avant d'introduire notre chère Jen, qui est spécialisée du coup dans l'univers du corpo et du B2B, je voulais prendre les nouvelles de mon ami Rem. Ça va, Rem ?
Ben ouais, écoute, tout va bien. Merci.
Rem, il aime bien ces sujets. Rem, il aime beaucoup ces sujets parce que toutes les rooms où on ne parle pas de même coin, Rem est content. Donc.
Non, mais faut pas dire ça. Mais c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. C'est bien.
Et ben voilà, on parle d'un. Voilà,
en fait, je sais pas si on est là pour ça. Tu vois, c'est aussi ça le. Le questionnement.
On a un gros questionnement du coup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour parler de corpo tous les mois. Et donc, on le fait avec Jen. Ça va, Jen ?
Bah ouais, ça va super. Je suis contente en plus que Rem, je suis sûre que tu vas adorer cette room. Ça va changer effectivement un petit peu.
Très bien. Et dis-moi, Jen, alors, t'es pas venue toute seule, du coup, tu as. Donc, on va parler de quoi aujourd'hui ?
Alors, je viens jamais seule, mais ce que j'aime bien faire, c'est de laisser les gens se présenter eux-mêmes. Je trouve qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, derrière FOMO Boys, j'aime beaucoup, mais il y a Thomas, qui est le fondateur de Infinity Labs. Et Thomas, bah, vas-y, commence, enfin, parle-nous de toi.
Avec plaisir, enchanté, merci de nous recevoir. Moi, c'est Thomas, je suis dans la blockchain depuis 2017, et puis j'ai monté Infinity Lab, du coup, mon agence, il y a maintenant bientôt 3 ans, et du coup, on travaille principalement avec des marques ou des corpos sur leurs projets Web3, majoritairement des projets NFT, mais ça arrive aussi qu'on travaille sur des marketplaces ou des cryptos ou autre. Quoi. Voilà.
Et pour accompagner Thomas, et c'est ce qu'on aime bien faire en fait au NFT Morning sur la Room Corpo, c'est avoir justement les feedbacks de la personne qui a aussi porté le projet en interne chez Michelin. Et c'est Théo.
Salut à tous. Du coup, Théo. Donc moi, je suis dans le Web3 au niveau perso depuis 2020. À la base, social media manager chez Michelin et toujours. Et aussi lanceur et co-fondateur du projet Michelin Explorer Club, donc le projet Web3 de Michelin.
Alors, merci à tous les deux. Théo et Thomas, j'aime bien, j'ai l'impression que ça fait Jen et Jen. Théo et Thomas, j'aimerais bien qu'on... Que tout de suite, en fait, parce que nous, juste pour donner l'ambiance, on a déjà fait un call ensemble, justement, pour que je comprenne un peu comment vous aviez monté ce projet. Et il y a une jeunesse qui est assez intéressante, en fait. Théo, je veux bien que tu nous expliques pourquoi le Web3 chez Michelin et pourquoi ça a été pertinent pour toi à un moment de l'intégrer.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est parti d'une idée qu'on a eue avec mon collègue Guillaume. Donc, on était tous les deux social media managers. À l'époque. Et en fait, ce qu'on trouvait dommage parfois chez Michelin, c'est qu'on a des activités qui sont déjà très segmentées entre l'activité plutôt pneumatique et l'activité guide Michelin, puisque oui, c'est bien la même marque qui fait le guide gastronomique et les pneus. Et du coup, on se demandait un peu comment on pouvait trouver un endroit où on ralliait un peu ces communautés de fans, puisqu'on a des fans de sport auto, des fans de gastronomie, des fans de voyage, etc. Et étant tous les deux un petit peu dans le Web3 au niveau perso, on s'est demandé si justement le Web3 n'était pas le bon endroit pour créer cette communauté de fans de Michelin, quel que soit le type d'activité. Et on avait aussi une problématique, c'est que En fait, on n'est jamais au contact direct de nos consommateurs, puisque quand on va acheter un set de pneumatiques, on va chez un revendeur, on ne va pas directement être en contact avec Michelin. Quand on va dans un restaurant étoilé Michelin, nous, on a la chance de pouvoir distinguer les restaurants qui méritent d'avoir des étoiles, mais ce ne sont pas non plus directement des restaurants Michelin. Donc, en fait, on avait peu de contact avec nos communautés. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer de lancer un projet Web3 pour réunir vraiment cette communauté autour d'un seul et même projet. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée du Michelin Explorer Club. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'étapes qu'on va, je suis sûr, expliquer juste après.
Ouais, c'est sûr. Mais alors, juste, permets-moi de creuser un tout petit peu, parce que moi, c'est une question à laquelle j'ai toujours pas de réponse, mais qui me fascine. C'est, en fait, comment, selon toi, justement, le Web3 t'aide à te rapprocher, enfin, et donc les technologies et tout ça, t'aident à te rapprocher de ta communauté d'une manière différente que ce qu'on peut déjà connaître comme usage classique. Enfin, pourquoi le Web3 t'aide à te rapprocher de ta communauté?
Bah, en fait, tu as déjà, je pense, les outils qui sont utilisés pour rentrer en contact avec les communautés Web3, pardon, notamment Discord. Discord, qui est une plateforme qui est beaucoup plus communautaire que les réseaux classiques qu'on pouvait utiliser, Instagram, Twitter, Facebook et autres. Tu as vraiment cette possibilité d'avoir tous les topics qui sont abordés. C'est le cas sur le serveur Michelin. Et tu as aussi le fait qu'on voulait avoir une communauté qui soit vraiment intégrée à Michelin et qui ne soit pas juste une communauté de fans, mais qui est vraiment qui soit acteur en fait, de ce qu'on allait faire dans le Web3 et dans le futur, pour en fait un peu co-construire le futur de ce que devait être Michelin dans ce secteur-là. Il ne faut pas oublier que Michelin est une marque qui a l'innovation dans son ADN. Hein. On innove depuis le début de notre histoire. Et donc là, ça vient un peu parachever toute cette histoire autour de la marque. Et ouais, c'est vraiment ça. On a aussi eu, en fait, quand on a lancé l'idée et qu'on s'est dit on veut regrouper nos communautés, etc., on a vraiment lancé l'idée comme ça. Et en fait, il y a chez Michelin, tous les ans et plusieurs fois par an, la possibilité de développer des idées via un concours, on va dire, d'innovation interne. Et en fait, c'est quand on a lancé cette idée-là et en travaillant au fur et à mesure, en avançant sur le projet de réunir toutes nos communautés, etc., qu'on s'est dit que le Web3 et une collection NFT étaient le bon moyen pour y parvenir.
Ok, et du coup, quand tu, une fois que tu as toi en tête que le Web3 peut vous aider à fédérer vos différentes communautés, comment ça réagit en interne? L'idée est tout de suite la bienvenue? Parce que vous lancez à une période où c'est un peu complexe, non?
Ouais, alors pour faire un peu d'historique, quand on a lancé l'idée, donc vraiment on s'est dit, ok, on a envie de regrouper nos communautés autour d'un projet, un projet commun, etc., c'était en février 2022. Donc c'était quand même il y a un petit moment, le marché n'était pas le même qu'au moment où on a lancé vraiment le projet. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'on a ce concours d'innovation interne où en fait, on a plusieurs étapes où on va aller pitcher et défendre notre idée auprès de différents jurys jusqu'à un jury final qui intègre des membres du top management chez Michelin. Et en fait, le projet a tout de suite été bien accueilli aux différentes étapes du processus. Ça a suscité beaucoup de questions, puisque la plupart n'étaient pas familiers avec ce qu'est le Web3, le fait que ça implique des crypto-monnaies, donc il y avait des positions en interne sur les crypto-monnaies qui étaient assez différentes et on ne s'était jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce que c'est un NFT? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ces communautés ont en plus que les communautés ou les audiences classiques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux classiques? Donc il y a eu beaucoup de questions, mais ça a tout de suite été plutôt bien pris. Il y a eu beaucoup d'intérêt pour le projet en interne. C'est pour ça aussi que ça a pris beaucoup de temps, puisque au fur et à mesure que les partenaires internes étaient intéressés, on a dû présenter l'idée, l'intérêt pour Michelin, etc. Mais l'idée a tout de suite été plutôt accueillie avec enthousiasme, en tout cas, de pouvoir se lancer un peu dans un nouvel univers et voir ce que ça allait pouvoir apporter, ce que nous, on allait pouvoir aussi apporter un peu à ce nouveau monde qui est le Web3. Donc c'était plutôt cool à mener comme projet, puisqu'on voyait vraiment cet enthousiasme auprès de tout le monde et on n'avait pas à se battre en tout cas pour convaincre avec l'idée en elle-même. Donc c'était plutôt sympa.
Ouais, en même temps, tu n'as pas à te battre pour convaincre, mais tu passes les étapes via un concours quand même. Donc tu vois, c'est très différent d'ailleurs de ce qu'on a l'habitude d'entendre comme cheminement. Mais finalement, tu vois, j'imagine qu'au plus vous allez, au plus il y a des étapes que vous franchissez, au plus ton projet devient de plus en plus solide, puis tu commences à te poser les questions et les bonnes questions. Et peut-être qu'à ce moment-là, enfin une fois que c'est validé, il faut t'entourer. Il faut t'entourer pour que tu réussisses. Ce que vous avez en tête et ce qui a été validé chez Michelin, et j'imagine que c'est là que Thomas intervient.
Tout à fait. Thomas, je peux faire l'introduction si tu veux et après je te laisse la parole, mais
avec plaisir.
C'est vrai que nous quand l'idée a été validée, etc., en interne, on s'est tout de suite dit qu'il fallait qu'on s'entoure des bonnes personnes, puisque Michelin, on est légitime sur énormément de sujets. Mais très certainement pas le Web3, puisqu'on n'était pas impliqué dans le Web3 pour l'instant. On avait besoin de mieux connaître les différentes communautés, le fonctionnement, les attentes et tout ce que ça engendre. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer de spécialistes du domaine, dont Infinity Labs, qui ont été les principaux acteurs du projet Michelin. Et c'était un vrai plaisir de travailler avec eux. Donc Thomas, je te laisse.
Attends, juste Thomas, une petite seconde, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, ce n'est pas une question que je pose souvent, mais je me la pose quand même. Pourquoi un groupe comme Michelin, avec tout le respect que je dois à Infinity Labs, vous n'allez pas parler, j'imagine, peut-être à des acteurs plus gros avec lesquels vous avez peut-être déjà travaillé, enfin un peu un côté Big Four, mais qui ont aujourd'hui une spécialité Web3. Et pourquoi vous préférez, à ce moment-là une boîte super au demeurant, mais comme Infinity Labs?
Il y a plusieurs raisons. Déjà, évidemment, dans un groupe comme Michelin, on n'a pas rencontré que Infinity Labs. Je pense que tu t'en doutes. Donc déjà, il y a, je pense, une question de feeling. Quand tu travailles au quotidien avec des gens, il faut avoir un bon feeling. Il faut avoir la même vision de ce qu'on veut faire. C'était aussi très important pour nous que les personnes qui nous accompagnent aient vraiment la même vision que nous, qu'ils soient capables de nous challenger et pas juste d'appliquer ce qu'on voulait faire, aussi de nous faire un peu nous remettre en question. C'était l'objectif, puisqu'on ne connaissait pas du tout le marché avec Michelin, donc il fallait qu'on soit challengé là-dessus. Et ensuite, il y a aussi une question, je pense, de réactivité, d'agilité, de capacité de travail. Quand on a lancé le projet chez Michelin, c'était un projet. Et donc, pour nous, ça a été un choix assez naturel, en fait, quand on s'est rencontré la première fois avec Infinity. Donc, il n'y a pas eu trop de suspense de ce côté-là.
Bon, top. Thomas, à toi.
Je ne sais pas trop quoi rajouter, mais c'est vrai qu'en tout cas, nous, on était aussi assez surpris, mais de la bonne manière, que justement, ils travaillent avec des plus petits acteurs. Et je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que ça a marché. On n'est pas la seule agence dessus, je ne dis pas ça que pour nous, mais il y a Bulldog aussi et Metav. Et je pense que ça change de voir des gros corpos justement travailler avec des plus petits acteurs qui sont peut-être un petit peu plus investis dans le space, on va dire, et peut-être un peu plus des pure players. Aujourd'hui, il y a, je pense, beaucoup de gros corpos qui ont fait le choix de travailler avec des grandes agences qui, effectivement, ont des spécialités parfois sur la blockchain. Mais on va dire que c'est des spécialités sur lesquelles ils ont sauté par rapport à la trend. Tandis que si tu vas sur des agences comme les nôtres, où nous, on était là depuis déjà quelques années et on a vraiment lancé, on a lancé notre agence à travers les projets. Donc, c'est un peu une approche différente. Je pense qu'on vit un peu plus les choses. Et comme je disais, je pense que nous, on n'a pas vraiment ce caractère d'entreprise classique où on va se dire on fait jusqu'à 18h du lundi au vendredi. Nous, on est un peu plus une approche Web3, on travaille 7 jours sur 7, on est un peu tout le temps dispo. Donc, c'est vrai que pour un projet NFT, je pense que c'est des choses qui sont un peu impératives au final, puisque le Web3 ne s'arrête jamais. Tu as besoin d'avoir une réactivité, tu as besoin d'avoir des connaissances qui sont concrètes et qui sont actuelles, puisque ça évolue super vite. Et je pense que les grandes agences, alors certaines sont très bien, mais je pense que les grandes agences parfois n'ont peut-être pas cette connaissance actuelle ou alors en tout cas cette réactivité. Donc je pense que c'était plutôt cool et nous on est ravis en tout cas qu'ils aient fait ce choix et qu'ils aient avancé avec nous, quoi.
Ok, super. Merci beaucoup. Alors maintenant, on rentre peut-être un petit peu plus sur justement le projet. Comment vous imaginez les choses? C'est quoi comment vous imaginez-vous Michelin intégrer, rentrer dans le Web 3?
Alors nous, quand on commence le projet, je laisserai peut-être Thomas compléter, mais ce qu'on imagine, c'est créer une collection NFT qui va nous permettre en fait d'avoir vraiment cette communauté Web3 qui va nous aider en fait à construire la suite du projet. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir une communauté hyper engagée qui rallie un peu ce que je disais, toutes les activités de Michelin, que ce soit autour de la gastronomie, du voyage, du sport automobile, de Bibendum bien évidemment. Et le but sur cette collection NFT, c'est aussi que Bibendum soit, donc notre chère mascotte, soit l'acteur principal de cette collection, ce qui est assez compliqué puisqu'il est très protégé. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec Bibendum. On a réussi à faire quelque chose qui était, je pense, assez sympa, avec des Bibendum qui étaient tous uniques grâce à une combinaison d'accessoires. Et ensuite, en fait, c'est de pouvoir proposer à notre communauté différents types d'expériences que Michelin peut offrir. On est partenaire de certaines des compétitions automobiles, en tout cas de sport automobile, les plus prestigieuses de la planète, que ce soit en endurance avec les 24 heures du Mans, les MotoGP, etc. On a aussi beaucoup d'expériences autour de la gastronomie et du voyage, puisqu'on a les guides verts pour les voyages, le guide rouge, bien évidemment, qui récompense les restaurants les plus prestigieux autour de la planète. Donc en fait, c'était vraiment ça l'objectif, c'était de créer cette communauté très engagée autour de Michelin, un peu de travailler avec eux et de les impliquer sur le futur de Michelin dans le Web3, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire, etc. Et de leur proposer des expériences donc via des raffles qu'on a mis en place tout au long du projet, de pouvoir leur faire vivre tous les types d'expériences que Michelin peut proposer.
Alors Thomas, peut-être que tu peux compléter avec des infos sur la supply, le prix du mint. Est-ce que chez Michelin on fait rentrer des paiements crypto pour accéder? Enfin voilà, comment ça se passe?
Oui, bien sûr, bien sûr. On était sur une supply à l'origine de 5000. Aujourd'hui, on a atterri sur 2400. La raison, c'est assez simple. On a eu quelques petits problèmes techniques le jour du mint. Donc, ça casse toujours un petit peu le momentum. On avait réussi à, on va dire, le premier jour, malheureusement, on avait minté, je crois, 6 ou 700, alors qu'on avait déjà 650 personnes sur un Twitter Space pendant le mint. La hype était clairement là. On a eu un peu plus de 10 000 requêtes, je crois, pour minter. Mais on avait quelques problèmes techniques. Donc, sur téléphone, ça ne marchait pas. Sur certains ordinateurs, ça ne marchait pas. Donc, ça a un petit peu cassé la dynamique. Mais au final, on a laissé le mint ouvert. On est resté en Space, je crois, pendant 4h30 ou 5h le jour du mint. Pardon. Et on a lancé donc une campagne de délisting en faisant gagner des prix. On a laissé le mint ouvert. On a annoncé un burn de la supply avec une date précise et une heure précise. Ça a énormément plu à la communauté parce qu'ils se sont dit que si on était prêt à burner la supply, c'est qu'entre guillemets, on n'était pas vraiment là pour générer de l'argent, mais qu'on était là pour juste créer une communauté. Donc ça a un peu motivé tout le monde. Et puis au final, 3 jours plus tard, normalement, tu laisses un mint ouvert 3 jours. C'est un peu compliqué parce qu'il ne faut pas que le floor descende en dessous du prix du mint, etc. Mais on a eu un gros, gros soutien de la communauté. Et 3 jours plus tard, on est passé de 600 à 2400. Et ensuite, on a donc coupé la supply. De là, je pense que ce qui a bien marché, c'est qu'on a over-delivered. C'est-à-dire qu'on avait fait des promesses de faire une raffle par semaine, etc. Mais au final, les 3 premières semaines, on a fait nos raffles toutes les semaines, plus un free mint ce qu'on a appelé la collection héritage. Donc, on a été littéralement dans les archives de Michelin, prendre des posters historiques, qui dataient le plus vieux, je crois, de 1897. Quand même vraiment une part de l'histoire, et on a digitalisé ça, qu'on a offert à la communauté. Je pense qu'on joue aussi un rôle clé dans le sens où on fait des amas toutes les semaines avec notre commu, et je pense que pour un corpo, on voit rarement autant de transparence dans la communication qu'on fait avec la communauté, et je pense que ça plaît énormément. Donc aujourd'hui, je vois ça comme vraiment un petit club. Parce qu'on a à peu près 1000 personnes aujourd'hui, 1000 holders pour 2400 NFT, qui a accès à des expériences, ultra privilégiés ou des, ce qu'on appelle des money can buy experience, parce qu'on va fournir parfois des expériences VIP que même si tu voulais les acheter, tu ne pourrais pas. On va aller rencontrer les pilotes, etc. On va aller en VIP paddock, on va avoir un restaurant étoilé, etc. Donc ça, plus je pense aujourd'hui, on a créé une communauté qui est super soudée à travers les expériences qu'on a fournies. Beaucoup de monde qui a pu se rencontrer physiquement. Je pense que ça, c'est assez, assez exceptionnel aussi dans le Web3. Donc, je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui. C'est Michelin qui fournit à un club vraiment des expériences autour de toutes les industries dans lesquelles il est. Et je pense que c'est ça la force du projet qu'on a en corpo, qui fournit vraiment et qui utilise, en tout cas, ses leviers internes pour une petite communauté de 1000 personnes pour l'instant. Et ça, je pense que c'est assez, assez beau à voir.
Et du coup, est-ce que c'est la communauté qui a décidé de burner le reste de la supply ou ça vient de vous ?
Non, c'était nous en fait. C'est, dès qu'on a vu qu'on avait des problèmes techniques et qu'il y avait peu de mint, on s'est dit, bon, dans tous les cas, on ne peut pas laisser le mint ouvert indéfiniment. Ce n'est pas quelque chose qui plaît à la commu. Nous, la façon dont on gère nos projets, c'est que avant d'être des fondateurs d'agence, on était des investisseurs et on achetait des NFT. Donc moi, je pense toujours qu'est-ce que j'aimerais que la team fasse. Si j'étais tout simplement dans la commune que je venais de minter. Donc, je sais que personnellement, une plus petite supply, c'est toujours plus intéressant quand tu es un holder, parce que généralement, c'est plus sain, tu auras peut-être plus d'utilité par personne, etc. Donc, dès qu'on a fait l'annonce, je sais que tout le monde était ravi, et du coup, après, tout le monde était un peu plus patient, ce qui est rare dans le Web3. Et du coup, je pense que ça a beaucoup plu.
Ok, et du coup, c'était un paiement, il était à combien le prix du mint et c'est quoi aujourd'hui le prix du, enfin le flip price?
Ouais, on était à 0,05 Ether, mais à l'époque, il n'y avait pas encore le début du bull run, donc ça faisait en valeur à peu près $70. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être aux alentours de 0,11 ou 0,12, mais qui font plutôt maintenant 480 ou $500. Donc en valeur, on est quand même sur un x8, quoi, enfin x7, x8.
Ok, ça c'est quand même plutôt, c'est plutôt positif. Ok, donc en fait, juste pour que je résume, en gros, vous lancez une supply de 5000, il y a des problèmes techniques, et donc face à ces problèmes techniques, vous décidez de burner une partie de la supply et de rester focus sur les gens qui ont minté et valoriser en fait ces 1000, enfin cette communauté de 1000 personnes, qui donc a finalement plusieurs NFT par personne. Et donc vous dépassez cette difficulté comme ça. Après, justement, comment, enfin, alors vous êtes déjà un petit peu rentré dedans, mais donc on voit bien que dès le départ, le projet c'est fédérer une communauté générale, et donc c'est assez différent aussi des projets qu'on entend aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent bah, « En fait, je n'ai pas besoin d'un Discord et tout ça pour utiliser le Web3 et fédérer une communauté qui est déjà existante. » Donc, vous partez presque du postulat inverse. Et cette communauté-là, donc vous êtes un peu rentré dans les détails, mais du coup, vous la rewardez. Comment vous l'animez, c'est quoi le type de personne finalement qui est sur Discord? Parce que Discord, on peut se le dire, après chacun a son avis. Moi, perso, je trouve pas ça hyper glamour. Donc, du coup, facile d'accès pour tout le monde. Donc, c'est qui, en fait, finalement, votre communauté aujourd'hui?
Théo, tu voulais y aller ou je...
Je peux y aller sur quelques chiffres qu'on a. Alors, c'est évidemment, dans le Web3, c'est compliqué, c'est uniquement du déclaratif. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, on a une cible qui en fait est assez intéressante. Au niveau de la répartition géographique, on a, je crois, un peu plus de 50% de la commu qui est en Europe. Et ensuite, c'est un peu réparti, on va dire, un peu moins de 25-25 entre l'Asie et l'Amérique du Nord, avec trois top communautés qui sont les US, la France et l'Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et au niveau de la partie âge, on voit que la plus grosse tranche d'âge qu'on a dans la communauté, c'est 30-45 ans. Donc, c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Effectivement, il y a potentiellement quelques freins à l'entrée sur Discord. Après, on a fait le choix quand on a lancé la collection, on voulait vraiment une communauté qui soit pas Web3 native, mais en tout cas intéressée par le Web3. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un paiement qui était uniquement crypto, il n'y avait pas de paiement fiat, donc il fallait avoir ton wallet, etc. Et je pense que c'est des gens qui sont aussi habitués à l'utilisation de Discord, donc ça simplifie peut-être un peu la chose. Mais je trouve que Discord, effectivement, il y a des barrières et c'est peut-être pas l'outil le plus sexy de la Terre. Mais en tout cas, ça a cette vertu de pouvoir vraiment avoir une relation many to many et très horizontale entre les membres de la communauté, plus que n'importe quel réseau social que, en tout cas, nous, on utilisait jusqu'alors chez Michelin. Donc, ça a quand même cet avantage-là. Et si on regarde sur les stats du Discord, on a, je crois qu'on a 80 ou 85% de nos holders qui sont sur Discord. C'est quand même un beau pourcentage. Thomas, je ne sais pas si j'oublie des choses, si tu veux compléter.
Non, mais clairement, c'est ça. Je pense que c'est assez surprenant parce que c'est vrai que Discord, comme tu disais, Jen, c'est pas facile d'accès. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais je sais que on a quand même beaucoup de monde dans la commu pour qui c'est leur premier NFT et la première fois qu'ils utilisent Discord. Mais je pense que tout le monde a joué le jeu et aujourd'hui, ça se passe très bien. On a réussi à garder une belle activité, même si on avait commencé dans une période où c'était un peu plus complexe. Mais je pense qu'il s'agit juste de créer des liens. On a la chance d'avoir une communauté entre guillemets à taille humaine pour un projet Web3. 1000 personnes, ça se manage et aussi tu crées des liens plus facilement qu'avec une communauté où tu as peut-être 5 ou 6 000 holders. Donc je pense que ça, c'était une force aussi pour nous. Et du coup, dès le départ, on a clairement joué la transparence, une communication constante sur non seulement ce qui arrive, mais aussi ce qui est en train de se passer. Et je pense que ça, c'est super important de donner de la visibilité. Et après, on a vraiment pris le temps aussi, je pense, de se connecter avec les membres. Donc la plupart de nos holders, en tout cas les plus actifs, on les a déjà eu en call, on les a déjà rencontrés à un événement, on fait des amas toutes les semaines pour tenir au courant tout le monde, on a une raffle par semaine, donc qui ramène forcément un peu tout le monde sur le serveur aussi. Donc je pense que c'est un peu un ensemble de tout ça qui fait qu'on a une communauté active, engagée. Je pense qu'on a vraiment une commune qui est incroyable, parce que nous, on a un support, en tout cas au niveau de la team, on a un support et un soutien que tu vois rarement dans le Web3. Je pense aussi que c'est du fait qu'on a une communauté peut-être un petit peu plus mature que la moyenne des projets. Nous, on a travaillé sur beaucoup, beaucoup de projets différents, avec beaucoup de communautés. Et tu vois clairement qu'il y a vraiment des communautés qui sont plus pure Web3, où on va avoir du coup peu de patience, des attentes un peu incohérentes et beaucoup de fud dès qu'il y a un peu de retard ou qu'il y a un truc. Et c'est vrai que dans la commune Michelin, on n'a pas ça. Et ça, c'est super agréable quand tu builds. C'est que nous, on a une commune qui supporte l'équipe, qui, même quand il y a des délais ou quoi, vu qu'on communique dessus, qui comprennent. Et ça, je pense que c'est super important.
Mais du coup, juste, j'ai deux petites questions. Mais du coup, aujourd'hui, par exemple, tu peux plus la rejoindre, cette commune?
Tu peux si tu achètes un.
Enfin, mais comme il y a un principe de délisting, aujourd'hui, si par exemple moi je me dis ok, je veux rejoindre la communauté Michelin, j'ai adoré ce NFT Morning, j'ai envie d'en être, je fais comment?
Sur OpenSea, le marché secondaire, mais il n'y a pas beaucoup de listés, je crois qu'il doit y avoir peut-être 2% ou 3%, je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais il en reste quelques-uns.
Mais donc l'objectif, c'est d'avoir finalement un club un peu VIP avec ceux qui étaient là au début sans forcément faire grossir cette communauté?
Bah, en fait, je pense juste que faire grossir une commu, c'est bien, mais le focus, il faut toujours que ça reste ta première commu. Et tant que, entre guillemets, on n'a pas un projet, là, il est très bien, il est stable, il se passe bien, etc. Mais je pense qu'avant de se lancer sur une ouverture où on va peut-être refaire un drop ou agrandir la collection ou autre, je pense qu'il faut d'abord atteindre certaines métriques, certaines stats, c'est-à-dire avoir un floor price qui est quand même encore bien plus élevé que ça, avoir peut-être encore un peu plus délivré de choses et mis en place de choses, peut-être aller chercher encore plus d'utilité, parce que plus tu agrandis ta commu, plus il faut en fournir. Donc je pense qu'il y a des étapes à faire avant d'aller agrandir une commu. Il y a beaucoup de projets qui vont lancer un deuxième drop parce qu'ils vont se dire ça va refaire vivre un petit peu, ça va refaire rentrer de l'argent, ça va réactiver tout le monde, ça va relancer la hype. La réalité, c'est que si tu dilues ta communauté, ça va peut-être te relancer de l'hype au moment du lancement et les semaines avant et peut-être une ou deux semaines après. Mais généralement, c'est généralement un mauvais move si tu n'as pas ce qu'il faut derrière et si tu n'as pas la bonne situation au moment où tu lances, quoi. Donc je pense que nous, on fait très attention à ça. Et là, le focus, c'est vraiment de surdélivrer déjà sur cette première collection, d'avoir une commune qui est à fond, etc. Et peut-être à un moment, on ouvrira si c'est une volonté de Michelin et si la commu est OK, parce qu'il y a aussi un truc que je n'avais pas trop précisé, mais c'est vrai qu'on inclut beaucoup la commu dans nos décisions. C'est-à-dire que déjà dans les amas, on fait monter, on est toujours 5, 7, 10 sur le stage à discuter avec nos membres, etc. Et on fait aussi des votes dans la commu quand on a des doutes sur nos choix, parce que c'est vrai que même si nous, on est dans le space depuis longtemps, qu'on travaille sur beaucoup de projets et qu'on connaît pas mal de choses, tu n'es jamais sûr de rien. C'est-à-dire que des fois, il y a des bonnes idées, tu penses que c'est une bonne, et ce n'est pas une, forcément pour toute ta commune. Donc, on fait des votes, on leur demande toujours leur avis, on prend en considération autant qu'on peut. En tout cas, quand on a la possibilité de donner le choix, on le fait. Et je pense que ça joue beaucoup aussi.
Et le fait que ce soit un paiement crypto uniquement, ça c'est accueilli comment chez Michelin? Parce que j'imagine que du coup, forcément, ça génère quelques difficultés de faire rentrer une nouvelle ligne crypto. Voilà, enfin, comment ça se passe avec les services derrière juridiques, financiers
Yes, très bonne question. Effectivement, c'est une des premières questions qu'on s'est posées quand on a lancé le projet. Et en fait, on a un système de conversion automatique qui nous permet de convertir l'Ether qu'on reçoit directement en euros. Donc en fait, chez Michelin, il n'y a que de l'euro qui rentre. Ça facilite beaucoup les choses, puisque effectivement, on n'était pas forcément à l'aise avec la fluctuation et la volatilité de l'Ether. Donc on a mis en place un système qui est transparent pour les utilisateurs. Qui, eux, payaient bien en crypto, mais du coup, chez Michelin, il n'y avait que du fiat qui rentrait pour faciliter, effectivement, tout ce qui est la partie comptable.
Tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, bon, pour d'autres sujets, mais je trouve ça hyper intéressant. OK. Et du coup, si on pouvait se faire une sorte de key learnings de ce premier move de Michelin dans le Web 3 avec, je ne sais pas, des choses... Voilà, des choses que clairement vous mettez en avant, donc j'imagine de la communauté, ça, enfin, c'est un succès. Et des choses que, par exemple, vous éviteriez dans un futur proche si vous continuez d'itérer ou d'avancer dans le Web 3, ce serait quoi?
Bah, je peux commencer sur ce qu'on éviterait, comme ça, je n'ai pas forcément d'exemple. Je pense qu'on a fait certainement des erreurs, comme tout le monde, sur un marché qu'on ne connaissait pas. Mais bon, c'est aussi ces erreurs qui nous ont permis d'apprendre pour la suite. Donc, je pense que c'est plutôt bénéfique. Après, si je devais donner des conseils, c'est déjà bien prendre le temps de structurer le projet en fonction de ce qui est bon pour la communauté, j'ai envie de dire. Parce que je pense qu'un projet NFT ou Web3 sans communauté soudée derrière, je ne suis pas sûr que ça soit très, en tout cas, durable dans le temps. Je pense que c'est vraiment un des premiers critères à prendre en compte. Et de ne pas se lancer uniquement par opportunité de se dire « Ouais, le Web3, c'est hype ou les NFT, c'est tendance, donc on va se lancer sur ce marché-là. » Je pense qu'il faut vraiment construire quelque chose autour qui matche bien aussi avec l'ADN de la marque. Nous, par exemple, on a toujours essayé dans l'histoire de Michelin d'accompagner les gens à voyager, à découvrir de nouvelles choses, etc. Donc, ça faisait sens aussi de les accompagner et de faire découvrir un peu chez Michelin, que ce soit en interne ou en externe, le Web3. Donc, voilà, de vraiment garder aussi les valeurs de l'entreprise dans le projet. Je pense que c'est hyper intéressant d'avoir quelque chose qui soit cohérent avec l'ensemble de l'écosystème et de ne pas avoir... je pense que c'est aussi une des forces qu'on a eues en interne, de ne pas avoir un projet qui soit à part de l'entreprise, mais d'avoir un projet qui soit vraiment intégré. Donc voilà, et aussi, même si le Web3 n'est pas très patient, de quand même prendre son temps sur les choix, parce qu'il y a beaucoup de différentes possibilités, opportunités, etc. Donc de vraiment bien prendre le temps de choisir ce qu'on veut faire, ce qui est le mieux pour la communauté. Et de ne pas se jeter un petit peu partout sans trop réfléchir, parce que chaque choix qu'on fait a forcément un impact sur la communauté, sur le projet. Donc il faut bien prendre son temps pour analyser ce qu'on veut faire, quoi. Et Thomas, je te laisse compléter, hein, tu auras certainement beaucoup d'exemples.
Oh, t'en as cité pas mal là, hein.
Comme ok, moi je note quand même le, enfin tu vois, le point technique de se retrouver avec une liste d'attente, potentiellement de pouvoir sold out parce que vous avez un engagement derrière et que pour des raisons techniques vous puissiez pas et qu'il faille burn une partie de la supply. même si vous avez rebondi, même si voilà, je trouve quand même honnêtement, enfin voilà, après c'est mais je suis pas dedans, mais je trouve ça un peu dur quand même, tu vois, sur bon, voilà.
Oui, bien sûr. Après, on a rencontré certaines difficultés, hein, ça c'est sûr. Si je parle d'un point de vue interne, pour une grande institution comme Michelin, par exemple, les points légaux sont assez compliqués à gérer. Le cadre légal et juridique est assez flou autour de tout ce qui est NFT, actifs numériques, crypto, etc. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. On n'a pas forcément d'experts en interne puisqu'on n'était jamais allé sur ces sujets-là. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué. Sur la partie tech, tu le disais, effectivement, peut y avoir des aléas. Et donc, quand tu rencontres ce type de problématique, bah, c'est toujours un peu frustrant puisque tu te dis bah, on aurait pu sold out en quelques heures. Au final, on fait 2400 mines sur une supply de 5000 en 3 jours. Donc, ça peut être un peu frustrant. Mais je pense que l'important, c'est toujours de rebondir. Nous, on a eu la chance d'avoir une communauté qui est hyper... hyper soudé, hyper derrière le projet, qui pousse, etc. Donc ça a vraiment été une force pour nous, même dans les moments difficiles. Et c'est sûr qu'il y a pas mal de difficultés qui peuvent rentrer en compte. Et si je devais en donner une, effectivement, je pense que le côté légal est assez complexe à gérer pour les corpos, je pense.
Ouais, bah c'est ce qui revient de toute façon. Tu n'es pas le seul. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui est passée, en tout cas dans la room corpo, qui ne nous a pas parlé des enjeux légaux. Mais d'un autre côté, tant mieux, parce que je trouve que, tu vois, quand tu n'es pas un corpo, peut-être que les enjeux légaux, tu les mets un peu de côté. Alors, je ne sais pas si c'est l'ancienne avocate qui parle ou pas, mais c'est tellement évident pour moi qu'il faut les prendre en compte presque dès le départ pour pouvoir pérenniser la suite. Que certes, ça fait mal et c'est difficile à passer, mais en même temps, c'est indispensable. C'est indispensable et inévitable. Thomas, tu veux compléter ? Je ne sais pas si tu lèves la main.
Oui, je levais la main, mais c'était juste pour compléter sur le fait que c'est vrai que c'était compliqué, entre guillemets, de ne pas arriver sur un sold out, etc. Mais au final, si je suis honnête, nous, côté agence, on était assez contents de burn la moitié de la supply parce que c'est toujours mieux, déjà pour les holders, pour la commu. Après, c'est pas forcément le mieux pour un client s'il y a des objectifs financiers derrière, mais vu qu'entre guillemets Michelin n'était pas là pour générer de l'argent, je pense que c'était ça aussi la beauté de la chose, c'est que Michelin était vraiment là pour créer une communauté et monter un projet et partir dans de l'innovation, etc. Et du coup, quand ils étaient OK avec nous pour burn le reste de la supply, quitte à bah, entre guillemets, faire rentrer 50% d'argent en moins, déjà, je pense que c'est très beau de la part d'un corpo et je pense que ça ne s'est pas encore vu dans le space. La plupart des corpos, je pense, sont arrivés avec l'approche de soit essayer de vendre un produit, soit essayer de générer de l'argent à travers un mint. Alors que je pense qu'aujourd'hui, vu la taille des corpos et l'argent qu'ils génèrent, ça ne devrait pas être le focus. Mais du coup, je pense que Michelin a eu vraiment une bonne approche et s'est concentré directement sur la commu. Et en fait, même qu'on ait burn la moitié de la supply, vu qu'on a eu directement derrière un énorme soutien de la commu et du coup, des belles retombées en termes de communication, de marketing, de sentiment de la commu, etc. Au final, ce que Michelin cherchait et ce que sont les KPI de Michelin, c'est-à-dire aller chercher une image innovante, une image positive, une communauté qui est contente, de la communication, de l'impression, de l'engagement, etc. Les objectifs de Michelin, en fait, étaient remplis et sont remplis. Et c'est pour ça, du coup, d'ailleurs, que le projet prend encore plus de place en interne aujourd'hui. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce qu'ils sont avec la bonne vision, la bonne approche et les bonnes KPI, quoi.
Alors, justement, parce que là-dessus, tu vois, enfin, tu touches du doigt ma prochaine question. Déjà, donc, de ce que je comprends, si tu me dis que ça prend de plus en plus de place en interne, ça veut dire qu'il y aura des next steps. Donc, j'aimerais bien, tu vois, qu'on rentre un peu là-dedans. Et il y a un point que tu mets en avant qui dit, OK, c'était pas financier le premier point. Et ça, je l'entends. Et tant mieux. Néanmoins, tu vois, parce que si, en fait, il y a pas mal de corpos qui disent que le premier step, il n'est pas forcément financier, c'est, voilà, on itère, on est dans l'innovation, il faut y aller, il faut essayer à un moment. Mais néanmoins, j'ai quand même l'impression qu'à un moment, tu es rattrapé quand même par un sujet financier. C'est-à-dire que quand tu lances une ligne et que tu dépenses de l'argent, peu importe, enfin, et spécialement chez les corpos, il y a un moment où on te dit, OK, concrètement, ça nous ramène quoi ? Et donc, alors, et donc, tu vois, enfin... Je comprends la première étape, je veux bien qu'on parle de la suite, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas justement un moment, et tu vois, on le voit dans d'autres exemples corpos, où il y a un moment, on leur dit, bah, les gars, c'était sympa d'essayer, c'était sympa le projet, c'est super, on a fait un super truc. Maintenant, soit ça génère quelque chose, et aussi peut-être de, enfin, et sûrement de financier, soit si ça génère rien, pour parler très cash, désolé, passons à l'IA. Tu vois, enfin, voilà, voilà, c'est lancé. Mais
Non, non, mais je comprends l'approche, mais franchement, je pense que ça dépend comment tu vois les choses, parce que en l'occurrence Michelin, vu que eux, leurs attentes, c'est vraiment plus un retour sur, on va dire, leur image, leur la communication, l'engagement, etc. On va dire que c'est des attentes qui sont orientées marketing. Du coup, quand, par exemple, on a été rencontré le top management, nous, ce qu'on a sorti comme data, c'était plus le nombre d'impressions, le nombre d'engagements, le nombre de mentions de Michelin sur Internet depuis qu'on avait lancé le projet. Et en fait, quand tu présentes ces datas-là et que tu compares ça peut-être par exemple à un coût d'acquisition classique en marketing, où peut-être tu vas être à plusieurs euros pour un coût d'acquisition ou des choses comme ça par personne, et que tu compares ça à des stats que toi tu as, où on avait fait plusieurs dizaines de millions d'impressions depuis le lancement du projet, juste avec notre commu, même si c'était une petite, mais qui est super active, parce qu'on sait que le Web3 est super actif sur les réseaux. Au final, pour avoir le même nombre d'impressions juste en ads, ils auraient dû dépenser, je crois qu'on avait calculé, un peu plus d'un million. Donc en fait, déjà, le retour financier, entre guillemets, ils se retrouvent dans le marketing, c'est-à-dire que eux, les résultats et l'impact marketing que ça a leur coûterait plus cher s'ils n'avaient pas fait le projet, alors que là, en plus, on a un projet, on a une communauté entière et on build quelque chose, quoi. Donc, je pense que rien que sur ça, si on regarde les bonnes métriques et les vrais impacts d'un projet, je pense que les corpos peuvent se retrouver déjà juste sur la partie communication et marketing, sur de l'économie au final par rapport à ces coûts-là, quoi.
Ouais, ça. C'est vrai, si ça rentre dans un budget marketing. Bon, après, franchement, j'aurais encore 50 000 questions à creuser, mais le temps court. Je voulais bien qu'on parle aussi des next steps, si vous êtes OK, si vous pouvez communiquer un peu dessus.
Bah, sur les next steps, on peut commencer à en parler. On a beaucoup, beaucoup de meetings, notamment avec Thomas, sur ce qu'on veut faire. Il y aura des next steps. Ça, c'est pas, il n'y a pas de question autour de est-ce que le projet s'arrête ou continue. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Évidemment, le projet continue. On est super content de la communauté qu'on a, de ce que ça donne pour l'instant. Donc on a envie, évidemment, de continuer à faire vivre ce projet. Les questions qui se posent, en fait, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités, qu'on a évidemment tout étudié, qu'on continue à étudier. On se pose des questions, Thomas en a parlé, mais par exemple, est-ce qu'il faut agrandir la commu ou pas? Pour l'instant, c'est peut-être pas le bon moment, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire entrer des gens via d'autres procédés? On y réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait en termes de partenariat? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'event? On a eu la chance d'être partenaire du gala World of Women pour NST Paris, qui s'est super bien passé et sur lequel on a eu des super retours. Donc voilà, on a envie de continuer aussi sur cette partie-là. On sait qu'il y a évidemment une grosse trend, je pense, sur l'année 2024 en Web3 qui sera le gaming. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Donc il y a beaucoup de choses et j'espère qu'on arrivera très bientôt à une roadmap très claire à partager avec la commu. Je pense que ça devrait être le cas bientôt. Donc voilà, aujourd'hui, on étudie un peu toutes les opportunités qu'on pourrait avoir. Il y en a pas mal. Et on réfléchit évidemment aussi à toutes les utilities et les expériences qui vont arriver cette année pour la commu. C'est hyper important pour nous. On lance des nouvelles choses chez Michelin, donc on a aussi envie que la commu puisse les tester un peu en avant-première. Qu'elle puisse avoir accès à des choses que les autres n'ont pas, donc faire intervenir par exemple des guests dans nos amas, peut-être pas de façon hebdomadaire, mais au moins une fois par mois, sur des sujets différents qui peuvent toucher au motorsport, au guide, à l'innovation, etc. Il y a pas mal de choses. Thomas, je ne sais pas si tu veux compléter. On n'aura pas de choses hyper précises puisque tout est encore un peu en discussion. Mais en tout cas, ça avance bien. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Il faut juste qu'on choisisse les bonnes choses à faire, j'ai envie de dire.
Ouais, c'est ça. Là, grosso modo, pour vous donner un petit peu la situation, on avait présenté la vision donc fin d'année, fin décembre. Et depuis, c'est parti dans les strates top management, etc. Au point où finalement, ça a été jusqu'au COMEX qui s'est passé que très récemment, la semaine dernière. Et du coup, là, on est vraiment dans la phase où on valide et on fait les décisions finales, on va dire, sur la roadmap et tout ce qu'on va activer. Mais comme disait Théo, je pense que nos focus vont être autour de 1, les événements. C'est-à-dire que là, on a fait une première activation avec World of Women qui s'est très bien passée. On veut en organiser d'autres, ou en tout cas participer à d'autres événements Web3 ou des side events. Là, on est aussi très focus sur les partenariats, parce que je pense que la force de Michelin, c'est que c'est peut-être une petite commu dans le Web3, mais c'est un mastodonte dans le Web2. Et du coup, je pense que vu que c'est aussi assez rare de voir des corpos qui fonctionnent dans le Web3 et qui ont un projet, on va dire, sain, avec une communauté active, etc. Donc là, on a cette force-là et du coup, on a un énorme levier où là, moi, c'est assez cool de notre côté, mais on arrive à aller parler avec des projets qui, normalement, ne font pas de partenariat ou très peu. Donc, on parle vraiment avec les top 5 projets du space. Et donc, l'idée, c'est de créer des partenariats à long terme. Et là, on est en discussion bien avancée avec deux gros projets. Je peux pas dire à ce stade, mais en tout cas, on avance sur des partenariats de long terme. Donc, on sera vraiment sur des partenariats où il y aura des activations digitales, des activations physiques, pas mal de choses là-dessus. On a aussi lancé récemment, entre guillemets, les sub-communities. Donc, on peut dire des alpha groupes, mais j'ai envie de voir ça plutôt comme des sous-communautés, un petit peu comme les Bored Apes au final. C'est-à-dire qu'on a lancé ça récemment et c'est vraiment des groupes qui sont community-led, donc c'est vraiment créé par la commu avec un leader, etc., par pays ou par région. Et ça, on trouve ça assez cool aussi parce que ça fait des petits ambassadeurs locaux. Ça, on vient de lancer la création, dans le sens où on vient de donner un petit peu le guide quand même et les choses à respecter parce qu'on a quand même une IP et des contrats légales. Mais l'idée, c'est de donner l'opportunité à des sous-communautés. Donc là, on a les US, enfin, on a New York, on a la France, on a l'Allemagne, on a la Pologne. Et on a Hong Kong, et ça, c'est des petits groupes qui vont nous supporter, à qui on va sans doute fournir quelques autres avantages. Il y a effectivement le gaming aussi, comme disait Théo, on essaye de voir dans quel contexte on pourrait inclure le Bibendum, peut-être dans quel jeu ou dans quel métaverse. Donc il y a beaucoup de choses à venir, et effectivement, on est aussi en train de penser à comment on peut ajouter des mécanismes ou des features un petit peu, on va dire un peu plus Web3 pour la commu, pour un peu aller supporter le projet, continuer à l'engager, etc. Donc, beaucoup de choses. On est sur un deck de 72 pages de vision. Donc, il y a vraiment pas mal de contenu. Mais voilà, pour pas trop rentrer dans le détail, parce que je peux pas à ce stade, c'est ça.
Ok, génial. Génial, c'est quand même... effectivement, ça, vous avez plein d'idées, et tant mieux. D'ailleurs, j'en ai, moi aussi, si vous voulez. je vous les partagerai en off. John, je crois que tu as des questions à leur poser.
Ouais, mais on a fait déjà une longue room. En tout cas, non, c'est super cool. J'aime bien votre... En tout cas, il y a plusieurs choses que j'en retire. Ce que vous avez dit sur le retour sur investissement, c'est intéressant. Hein. Si tu arrives vraiment à sortir demain des KPIs clairs en montrant que tu arrives à être beaucoup moins cher qu'un certain coût d'acquisition via de l'advertisement classique, là, tu as un argument clé quand même pour onboarder énormément de monde parce que pour le coup, là, on est dans le financier. Enfin, on est dans le financier, on est dans le retour. C'est des budgets marketing qui sont dépensés, qui représentent des millions chaque année dans les grands groupes. Et on est un peu sur la promesse. On est sur une forme de promesse. Donc après, évidemment, j'imagine, est-ce que ça scale? Est-ce que ça marche dans la durée? Est-ce que c'est lié au lancement ou est-ce que ça dure? Bon, il y a plein d'autres questions qui se posent derrière. Mais en tout cas, je trouve que c'est un point super intéressant. Je pense que c'est intéressant aussi parce que c'est un projet... Quand on a des projets de corpo, on a des projets, on a des échecs, des demi-succès et des succès, on va dire. Et je pense que vous êtes plutôt dans la catégorie succès, donc c'est quand même un point positif. Je ne dis pas ça pour être sympa, hein, mais je pense que c'est un projet qui s'est lancé en plein milieu du bear market, sur lequel je pense qu'il y avait quand même un certain scepticisme. À un moment où tu avais quand même la plupart des projets qui se ramassaient la tronche. Et donc, Et en fait, voilà, vous l'avez fait, vous l'avez lancé, vous l'avez bien lancé. Avec un peu, mais je pense que c'est lié aussi sûrement à ton profil, Théo. C'est un projet en interne qui est porté quand même par un... Enfin, je dirais pas un dégène, mais par quand même quelqu'un qui a une forte culture Web3, quoi. Et c'est pas forcé. Et je pense que c'est... Enfin, j'ai le sentiment, je sais pas ce que t'en penses, Théo, mais que t'as une culture... Enfin, t'as un profil, malgré tout, relativement atypique par rapport aux gens qu'on reçoit aussi dans des boîtes en termes de porteurs de projets. Bah, comme tu l'as dit, t'es community manager. Donc, c'est vrai que t'es... Enfin, voilà, t'es pas directeur innovation du groupe ou... Enfin, t'es dans un autre space. Et donc, j'imagine que c'est... Enfin, je sais pas si tu réalises ça, mais ton profil est plutôt atypique, non ?
Oui, c'est clair. J'ai eu la chance de venir au NFT Leaders avec vous. Effectivement, quand tu regardes les profils, on avait tous des profils différents, mais effectivement, le projet n'était pas porté déjà par nos services innovation, etc. On était vraiment sur un projet porté par les services com et marketing. Et effectivement, je pense que le fait d'être au niveau personnel plus ou moins suiveur de ce qui se passait dans le Web3, etc., ça aide aussi à mieux comprendre ce qu'attend une communauté, etc. Et après, je pense qu'on a aussi eu la chance de tomber sur les bons partenaires, ce qui peut-être n'est pas toujours le cas pour les corpos, qui nous challenge beaucoup. Et c'est ce qui est intéressant pour nous d'avoir, que ce soit Infinity, Bulldog ou Meta, d'avoir des gens qui sont capables de challenger Michelin sur notre approche du Web3. Il y a parfois où on a peut-être eu une approche qui était trop Web2 et où on s'est recentré tous ensemble pour se dire « Ok, si on fait ça, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire avec le Web3, donc il faut qu'on change » et on a changé notre vision du truc. Et je pense qu'avoir cette agilité-là aussi, c'est hyper intéressant. Et le fait aussi que notre management en interne nous fasse confiance et nous laisse aussi pas mal de liberté sur le projet et ne soit pas là à vouloir valider tout ce qu'on fait, même si bien sûr, une entreprise comme Michelin, il y a beaucoup de strates de validation quand on veut valider.
Mais c'est le sentiment qui se dégage en externe, c'est ça, c'est que, enfin, on ne voit pas trop de... Enfin, on te voit incarner le projet tu donnes l'impression en tout cas d'avoir quand même la main dessus. Alors j'imagine justement, et c'est ça aussi le côté malin de Michelin, c'est que le fait que tu aies ce profil-là, ça permet aussi peut-être d'être dans des sphères de budget qui sont peut-être moins importantes que d'autres grands comptes, non ?
Oui, après la question du budget, elle revient forcément, et je pense que Thomas l'a très bien expliqué, le retour sur investissement, entre guillemets, tu peux le calculer de différentes manières. Nous, on n'a pas fait ce projet pour générer du revenu supplémentaire à Michelin. Ça, c'est une certitude. Donc après, il y a toujours des questions de comment on voit le retour sur investissement. Je pense que ce qu'on a partagé, c'est assez parlant en termes d'engagement de communauté, etc. Et oui, effectivement, on essaye de faire, avec le budget qu'on a, le maximum de ce qu'on peut faire. Pour l'instant, ça, je trouve en tout cas plutôt bien marché. Voilà, maintenant, il faut qu'on continue et c'est ce qu'on disait avec Thomas. On a beaucoup d'opportunités, donc il faut qu'on choisisse les bonnes pour la commu et pour que le projet puisse être aussi durable dans le temps. L'objectif, ce n'est pas juste de créer un momentum sur les 6 mois qui viennent de se passer ou sur un an, mais vraiment d'avoir un truc qui soit durable. Et donc, quel choix on fait pour que ça devienne, quoi.
C'est ça. Et c'est ma dernière question. C'est vrai qu'on le voit dans les grands comptes, il y a quand même beaucoup de projets où à un moment donné... Enfin, qui ont été coupés, quoi. Enfin, tout simplement, le Discord, à un moment, tu dis, bon, allez, ça suffit. Voilà, enfin, on voit que c'est l'essence d'un grand compte, hein, c'est de réallouer des ressources sur des priorités à un moment T. Est-ce que, du coup, t'as pas peur que dans 6 mois, on te dise, bon, c'était sympa, mais c'est plus ta prio ?
Je pense que si on fait les bons choix et qu'on montre toujours l'intérêt qu'il y a pour Michelin d'être dans le Web3 et qu'on arrive aussi à montrer qu'on apporte quelque chose au Web3, je ne vois pas de raison qu'on ait ces discussions-là. Bien sûr, ça peut arriver et dans ce cas-là, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, ce n'est pas du tout dans l'optique. Comme le disait Thomas, on a de plus en plus de meetings avec le top management, des présentations, des gens en interne qui sont intéressés que ce soit via différentes entités. Au début du projet, on était vraiment focus sur le projet, etc. Aujourd'hui, il y a des entités diverses chez Michelin qui nous contactent ou qu'on contacte pour s'associer, qui voient aussi l'intérêt pour eux de rejoindre le projet, etc. Donc, le but, c'est vraiment de construire quelque chose qui soit durable et de faire les bons choix parmi toutes les opportunités qu'on a pour que ça le reste, quoi.
Génial. Et du coup, tu vois, on cherche toujours un peu les recettes du succès. Est-ce que tu as le sentiment quand même qu'en interne, justement, là, il y a de l'intérêt maintenant. Au tout début, tu étais quand même plutôt en dessous des radars en interne ou pas ?
En dessous des radars, je ne pense pas. Puisque dès le début, on a eu des réunions avec le top management pour présenter le projet. Ils étaient intéressés. Ils sont très intéressés par tout ce qui est innovation. Donc ça fait partie de ces sujets-là. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'on était en dessous des radars. Je pense qu'on nous a laissé la bonne... autonomie pour faire avancer le projet et que ça fonctionne. Donc on nous a fait confiance et ça, je pense que c'est très cool pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Je dirais pas qu'on était en dessous des radars. Alors on nous regarde peut-être un peu plus maintenant puisque on considère que ça a été un succès et que c'est toujours un succès. Mais voilà, dès le début, ça a suscité beaucoup d'enthousiasme en interne. Donc c'était aussi plutôt cool quand tu lances un projet. Et que tu vois que bah, même en interne, voilà, il y a de l'intérêt. Ça te pousse un peu à continuer ça avec la même énergie, quoi.
Génial, génial. Bah écoute, non, mais c'est très clair et ça, en tout cas, ça montre une culture d'innovation dans le groupe. En effet, une certaine ouverture, surtout à ce moment-là. Donc, bah écoute, pour moi, c'est bon, en tout cas.
Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, John, comme d'hab. En plus, c'est pas vrai. Mais je suis assez d'accord. Je trouve qu'il ressort de ce projet vraiment un point de départ qu'on n'entend pas souvent, qui est cette volonté de fédérer une communauté. Effectivement, je pense que Théo il joue un rôle majeur chez Michelin, et notamment parce que tu t'y connais déjà. Je suis assez d'accord. Et moi, le dernier point, c'est que, tu vois, il y a des projets qu'on a vus passer qui, en interne, ont développé quelque chose. Effectivement, ils ont sorti quelque chose, mais sans aucun soutien du département communication. Donc, il y a eu zéro com, en fait, sur ce qui est sorti. Donc, tu te sens quand même relativement isolé. Et ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai avec vous. Donc, forcément, puisque ça part de là. Et pour ça, bravo. Et je pense que du coup, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau. On attend d'en savoir un peu plus. On vous laisse valider les points essentiels. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de vous recevoir prochainement.
Ouais. Et moi, j'ai plein d'autres questions pour la prochaine fois. Donc voilà, on pourra en reparler. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Jen, pour cette rubrique. Et merci, du coup. Voilà, je rappelle donc, voilà. L'agence, donc, Infinity Labs, voilà, ça s'écrit NFINITYLABS, je ne sais pas pourquoi je me lance dans l'épellation de mots des fois, donc voilà, vous pouvez les suivre sur Twitter, et donc Michelin, qui a son compte aussi, du coup, dédié au Web3, donc Explorer Club, et donc ça s'écrit Michelin, Explore, mais à la place du E de Explore, c'est un 3, tout simplement. Et donc, vous pouvez suivre ces comptes-là. Évidemment, ils seront partagés avec tout le monde dans la newsletter, et dans l'article, et dans le podcast. Merci, Jen.
Je voulais juste les remercier parce qu'on a fait un call avant où vraiment, on a discuté et on a été très libre de pouvoir poser pas mal de questions. Ils ont été très, très ouverts sur le fait de revenir sur les difficultés, le burn de la supply et tout ça. Donc, merci à vous pour vos réponses, pour votre temps. Et puis, j'espère à très vite.
Génial. Mais juste pour la note, le move de la supply, c'est le super move. Hein. D'ailleurs, quand tu vois les communautés actives, il y a quand même la comparaison avec Porsche, et Porsche reste une des communautés très actives en fait dans le Web3 en termes de marque, malgré justement ce faux départ un petit peu qu'ils avaient eu. Donc c'est un move plutôt gagnant en effet quand il est fait, quand on a la réactivité et la capacité de le faire. Donc très très cool. Et demain on va reparler. On va avoir un petit débat avec mon cher Rem. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Et donc le débat s'appelle When NFT Bull Run, Can Dev Do Something? Donc voilà, on va pouvoir en parler demain. Vous avez compris l'idée et vous avez compris la thématique. Donc on se retrouve Rem et moi, et puis tous ceux qui veulent rejoindre la discussion demain matin. Et en tout cas, je ne sais pas si Rem, tu es encore là d'ailleurs, ou tu es en balade. Rem, des fois, il a des petits rendez-vous en même temps que le NFT Morning. Mais en tout cas, merci beaucoup. Puis Jen, j'imagine que tu nous prépares déjà une nouvelle room corpo pour très prochainement. Et donc, on sera ravis pour cette nouvelle room. Passez une excellente journée. Et puis, good morning.
Merci à vous. Good morning. Happy.